franceinter.fr. Bonjour à tous. La CRIM, les stupes, la mondaine, autant de noms ou d'abréviations qui font trembler les criminels ou qui, à l'inverse, fascinent les policiers. Flic ou voyou, un lieu mythique incarne à lui seul l'histoire policière contemporaine, le 36 quai des Orfèvres. Après plus d'un siècle passé dans ses murs, aujourd'hui vétustes, la police judiciaire parisienne va quitter cet endroit mythique, en bord de Seine, niché sur l'île de la Cité, au cœur de la capitale. C'est dans un bâtiment ultra-moderne, situé dans le nord-ouest parisien, que les 1700 limiers de la PJ vont déménager peu à peu. C'est à la rentrée que le gros des troupes aura rejoint ce lieu fonctionnel et vaste, 32 000 mètres carrés de bureaux répartis sur 8 étages. Pour le moment, cependant, ce déménagement est marqué par des couacs tant il semble se faire à marche forcée. Et dans cet élan de modernité, il y a quand même des repères qui restent figés. Le 36 change de quartier mais va garder son numéro. La nouvelle page de l'histoire de la PJ va désormais s'écrire au 36 rue du Bastion, avec cette fois une vue directe sur le périphérique, loin, très loin du panorama majestueux qu'offre le toit du quai des Orfèvres, où débute le reportage de Maxime Fayolle. Le 36 sur son 31, la PJ fait ses cartons.
Interception, le magazine de la rédaction.
À la chose, c'est quand même sérieux d'éviter de polluer hein, la salle. Je vous en prie, attention à la tête. Bon, là, c'est la façade Napoléon III. Vous avez l'aigle impérial qui se trouve là. Vous voyez là-bas? Et là, la façade Louis-Philippe. C'est ainsi que se construit notre lieu. La petite tour là-bas, que vous voyez. Là, vous voyez ? C'est la tour Bombec. Pourquoi ? Parce qu'au XVe siècle, avoir Bombec voulait dire la vérité. Et donc, dans cette petite tour étaient pratiquées des auditions. À l'époque, on appelait ça des interrogatoires, où on pratiquait la question ordinaire et la question extraordinaire. Et forcément, à force de conviction physique, la personne interrogée pouvait dire la vérité que l'interrogateur souhaitait entendre. Donc la torture était pratiquée là-bas. Patrick Baudot, je suis chef d'état-major à la brigade criminelle et je suis à la brigade criminelle depuis 1986. J'étais prof d'histoire avant, effectivement.
C'est quand même une vue panoramique sur tout Paris.
Eh oui. Et vous apercevez que Paris est quand même une petite ville. Hein. On a l'impression qu'on peut toucher, en fait, de la main, tous les monuments de Paris. Là, vous avez la Tour Montparnasse, Saint-Sulpice, la Tour Eiffel, l'Académie française, le Louvre. L'intérêt d'ici, ça vous résume la conception politique de la France de l'Ancien Régime. Vous avez le pouvoir royal avec le Louvre, le pouvoir religieux avec Notre-Dame, et le pouvoir de justice au centre. C'est un peu les concepts qu'on peut avoir de l'organisation sociale du 17e et du 18e siècle.
Ça va vous manquer ce toit hein.
Pas du tout, je suis ravi d'aller sur l'autre toit. C'est une chance. Enfin, vous savez, notre évolution, c'est comme la langue. Une langue qui n'évolue pas, elle est appelée, ça devient une langue morte. Une langue morte dont nous, on va évoluer. Hein. Puis ce ne sont pas les lieux qui créent les hommes, ce sont les hommes qui créent les lieux. Donc c'est à nous d'arriver avec notre mémoire, notre histoire, et d'envahir ces lieux pour en faire ce qu'on aime.
Tu vas commencer par te fader les dossiers en cours du groupe. On a une dizaine d'affaires en portefeuille.
C'est les affaires non résolues. C'est la tradition au 36. T'es nouveau, t'as un œil neuf, tu peux avoir des idées qu'on n'a pas eues. Alors tu lis, tu relis, tu notes, tu gamberges, t'hésites pas. Tu poses des questions et on en parle. Ici, on ouvre toutes les portes et on prend le temps de les refermer. Jusqu'à la bonne.
Claude Cancès, j'ai passé 35 ans de ma vie au 36 quai des Orfèvres. J'ai débuté comme jeune inspecteur en 63 Et j'ai fini patron du 36 en 96. Je suis donc tombé dans cette marmite du 36 tout à fait par hasard et par nécessité, au mois de mai 63. Et puis comme tous les flics qui ont travaillé au 36, quand on tombe dans cette marmite, on n'en ressort pas.
Bon, vous avez fait donc la mondaine, la criminelle, la BRI, patron du 36, à l'état-major aussi. Vous avez quasiment tout fait. Vous avez un regret d'ailleurs, un poste que vous n'avez pas eu ou quelque chose que vous n'avez pas fait?
Oui, le rêve de tout flic du 36, c'est pas d'être patron du Quai des Orfèvres, c'est d'être le Maigret, le patron de la crime.
La criminelle, ça reste aussi un des services les plus populaires, j'allais dire, finalement, de cette maison.
Oui, alors, il y a eu effectivement le personnage de Maigret, mais il n'y a pas que Maigret, il y a les affaires qui ont été, les criminels qui ont laissé une trace dans l'histoire, de la bande à Mono jusqu'au tueur en série, Guy Georges, Thierry Poulain, en passant pour le docteur Petiot, les affaires, l'affaire Stavisky, bon, il y a même un président de la République qui a été dans le bureau de Maigret, c'est François Mitterrand, lorsqu'il a été entendu dans l'affaire l'attentat bidon de l'Observatoire. Ça, je sais que ça passera pas, parce que chaque fois que je raconte ça, c'est coupé à l'antenne, je m'en fous.
Il est revenu d'ailleurs, Mitterrand, ouais. Ensuite.
Alors, effectivement, il est revenu. J'étais patron de la BRI et nous avions eu à traiter deux ou trois affaires médiatiques. On avait beaucoup parlé de l'Antigan. C'est le président de la République qui est venu nous féliciter.
Devant le fameux 36.
Ça, c'est du respect.
Ça va ? Très bien, vous ?
Bonjour, monsieur.
Presse Inter.
Ah, ouais. Toujours bien entouré.
Bon. Le 36, c'est...
Entre autres, ouais, surtout là, le 36. Ouais. Hein. Vous avez une figure...
Ouais, allez, arrête ton chat,
Non, non, c'est bien.
Ça va, Loulou ? Ah.
Bonjour.
Bon,
ça va ?
Ça va ? Bonjour.
À plus tard ?
Hein ?
À plus tard ?
Et je vais essayer de venir le 7, mais c'est pas sûr.
Ah, oui, ça serait bien ça. Ouais.
Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu.
C'est gentil.
On dit souvent que le 36 va déménager parce qu'il n'est pas adapté. Il n'a jamais été adapté. Jamais.
Même vous, quand vous y avez été, c'était
oui,
pas...
Mais c'est vrai que... c'est vrai que... il a une âme. Ce mythe-là, l'âme du 36, va se transporter au Batignolles. Hein.
Mais qu'est-ce qui fait l'âme du 36 finalement? C'est les hommes qui la composent? C'est l'histoire du bâtiment? Sont les grands criminels?
Non, c'est à la fois les affaires, les hommes qui ont. Les criminels, pour aller à l'essentiel, et puis ceux qui ont eu en charge l'arrestation de ces criminels pour les mettre à disposition de la justice. En fait, tout un ensemble. Et puis. Il y a aussi, on l'évoquait tout à l'heure, la situation géographique dans cette belle île de la cité.
Hein. Ah oui, là c'est vrai que le cadre est magnifique.
Ouais.
On le voit, là on est juste presque au bord des quais.
Ouais.
C'est très calme.
Jusqu'à minuit, il y a encore les bateaux-mouches mais qui passent. On entend le son, les hôtesses qui commentent et puis les éclairages. Mais après minuit, c'est d'un calme. Vous savez, lorsqu'on procède à des interrogatoires, parce qu'à la crime c'est ça, hein, nuit et jour, et qu'on a besoin d'un moment de répit, en été, comme on ouvre la fenêtre, on respire, et puis la vue de la scène, ça permet de recharger les batteries. Les
ça accueils. Apaise.
Ça apaise, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, ouais.
Vous disiez tout à l'heure que c'était pas fonctionnel déjà à l'époque, c'est-à-dire que comment ça se passe à l'intérieur? Vous êtes très nombreux par bureau?
Alors, déjà, vous avez l'impression... À un moment donné, surtout au troisième étage de la crime et au quatrième, d'être dans un vieux navire, un vieux bateau dans lequel vous ne monteriez pas pour partir en mer. Or, ce navire-là, qui est là depuis 1913, il n'a pas bougé, mais en fait, il a traversé la France, les océans, à travers les enquêtes. Hein. C'est ça qui est fabuleux. Fabuleux.
Allô, ici police, j'écoute. Eh bien, parlez, j'écoute. Ça vient du Quai des Célestins. Allô, oui? Sans blague. Où ça? Quel endroit? Le numéro, rue des Rosiers. Le tueur de bonne femme a remis ça. Passage des Rosiers, ça donne 68 rue des Rosiers.
Je connais.
Allô, état-major?
Ici commissariat central du 4e arrondissement. Une femme vient d'être agressée rue des Rosiers.
Allô, allô, on m'a demandé aussi de prévenir le commissaire Maigret. Vous vous en chargez? Merci.
Alors impossible d'évoquer le 36 quai des Orfèvres sans évoquer celui qui l'a rendu ultra célèbre, le romancier Georges Simenon et bien sûr le personnage, le commissaire Maigret. J'ai rendez-vous avec l'un des biographes de Simenon, le belge Michel Carli.
Voilà une rencontre dans un lieu mythique, non?
Plus que mythique
plus
même.
Que mythique. Regardez le petit panneau scutiforme qu'elle a au pied du 36 quai des Orfèvres, j'espère qu'il va le rester après le déménagement. Qu'est-ce qui est cité? Les grands flics? Vidocq, les célèbres, Broussard, etc. Pas du tout. Le commissaire Maigret. On est dans un lieu emblématique comme Baker Street pour Sherlock Holmes. Et c'est un lieu dans l'épicentre de Paris. C'est donc Simenon qui va associer à la fois un personnage, un lieu, une ville.
Ce qui frappe quand on parle de Maigret à des policiers actuels ou même d'anciens policiers, ce qui frappe, c'est l'exactitude en fait de ces romans. Comment il a fait Georges Simenon pour rendre Maigret aussi précis?
Alors, les premiers Maigret comportent des erreurs factuelles au niveau policier. Alors, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que on a commencé à vendre les Maigret, on les a placés surtout dans les gares, littérature de gare au départ. Mais en 1931, donc à l'automne, semble-t-il, Simenon reçoit une lettre. C'est signé Xavier Guichard, directeur de l'APJ. Je vous lis une partie de cette lettre qui vaut la peine. « Je reçois, dit Simenon, un jour une lettre, charmante d'ailleurs, de Xavier Guichard, celui qui a arrêté Bonneau, et qui m'a demandé d'aller le voir. Je suis allé, bien entendu. Il m'a dit, écoutez, vous écrivez des romans policiers, mais ils sont bourrés de choses fausses. J'aimerais que vous fassiez le tour de l'APJ, mon secrétaire général va vous conduire, et vous montrer comment ça se passe en réalité. » Il se trouve face à face à des grandes carrures. Il avait devant lui des gens qui vont lui apprendre des choses. Et c'est, si vous voulez, une nouvelle patte humaine qu'il va injecter dans son personnage et qui va faire que Maigret, si vous voulez, reste l'idéal pour un policier à l'heure actuelle.
Et Simenon rentre dans le 36 et s'immerge même dans le 36 quai des Orfèvres.
Alors, vous voyez la voûte, là, en face de nous, hein, il passe à l'intérieur, il a sa lettre d'invitation de Xavier Guichard, il tourne à gauche, dans la cour, là-bas où il y aura les premières voitures, et puis il monte les escaliers, cet escalier avec les marches usées, les murs un peu décrépits, et puis il est accueilli par Xavier Guichard. Et là, Xavier Guichard va lui faire montrer absolument toutes les arcanes et tous les lieux. Alors bien sûr, il va au rapport. La première chose qu'il va au rapport. C'est-à-dire le moment crucial d'une vie de commissaire, à 9h du matin, tous les commissaires vont chez Xavier Guichard et on ouvre les dossiers. On dit de quoi s'occupe-t-on, etc. Et Simenon voit ça. Et Simenon voit surtout les flics. Comment ils sont, comment ils agissent, comment ils sont habillés, ce qu'ils fument, etc. Et tout ça, évidemment, va devenir une sorte de nourriture nouvelle. Maigret, ce n'est pas un monocépage, hein. Il y a beaucoup d'apports. Alors, il va apprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il va apprendre? Il va d'abord apprendre qu'il y a des flics qui aiment bien traîner dans les bars, dans les brasseries, même à Pigalle, etc., pour humer, ressentir, etc. C'est Maigret, bien entendu. Il va surtout apprendre les interrogatoires. Les grosses pointures lui apprennent qu'il existe un interrogatoire à la chansonnette. Ça veut dire qu'on fait semblant de parler d'autre chose. Mais en attendant, on cuisine le gars et on le fait parler, etc. Et on revient sur les questions en modifiant un mot. On appelle ça la chansonnette.
Est-ce que ça restera toujours la maison de Maigret, la maison de Simenon? Ou bien, parce qu'on sait qu'il va y avoir ce déménagement, est-ce que le mythe et même celui de Maigret va se transformer, va se transporter ailleurs, ou que ça restera ici?
Maigret, ça reste quand même une création littéraire. Mais elle est tellement vivante que finalement, on parle de Maigret, nous parlons de Maigret comme si c'était une personne réelle. Hein? Donc, moi, je pense que ça restera toujours un lieu de fascination et que ça sera toujours dans les guides de Paris. D'ailleurs, il y a des tas de guides de Paris, policiers, criminels, etc. Le 36 est dedans et le restera.
Nous sommes au troisième étage du 36 quai des Orfèvres. Il y a un panneau lumineux qui nous indique qu'on est à la brigade criminelle. C'est l'une des brigades les plus mythiques du 36 quai des Orfèvres. Et sur notre gauche se trouve le bureau 315 avec une plaque marquée commissaire divisionnaire chef de service. C'est tout simplement dans la littérature le bureau de Maigret. Et on va y entrer.
C'est un bureau qui est évidemment chargé d'histoire.
C'est le monde à l'envers. La boucle est bouclée. Bonjour.
Martine Monteil a occupé ce bureau dans les années 90. Elle a aussi dirigé le 36 au début des années 2000. C'est elle qui nous fait la visite.
Alors ici, nous sommes dans le bureau du patron de la brigade criminelle. Donc si vous voulez, c'est un bureau mythique un peu. C'est le bureau de Maigret.
Oui, c'est, il y a quelque chose d'un peu particulier. On le voit pas, ça se ressent juste sous les pieds, c'est de la moquette ici,
oui, voilà.
C'est particulier.
Ah voilà, alors il y avait deux aspects, si vous voulez, lorsque dans une affaire un peu délicate, les enquêteurs avaient un peu de mal à faire parler un individu dont ils avaient la conviction qu'il pouvait être coupable. Alors en général, ils disaient tiens, on va peut-être lui faire le coup de la moquette. Alors le coup de la moquette, c'était faire descendre dans le bureau du grand patron pour l'impressionner un peu, parce que bon, dans les bureaux des collaborateurs, bon, c'est le traditionnel lino, des choses qui n'ont rien à voir avec donc cette belle moquette. Alors, évidemment, le décor est plus impressionnant aussi. Et il y avait les deux fameux fauteuils club dans lesquels la personne qui s'asseyait s'affaissait vraiment. Donc, le patron de la crime avait de ce fait un regard tout à fait dominant. Alors, voilà. L'idée, c'était après de prendre sa grosse voix et d'essayer de convaincre celui qui était en face de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, de notre conviction de sa culpabilité. Alors, quelquefois, ça marchait, d'autres fois, non, il faut bien l'avouer, mais ça fait partie, là aussi, de l'histoire du 36 et de la crime.
Vous avez été la seule femme à la tête de la brigade criminelle, la seule femme à la tête du 36. Pourtant, quand vous êtes rentrée dans la police, on disait souvent « la police, un métier d'homme ».
Ah oui, ça, il faut reconnaître qu'il fallait en vouloir. Il fallait être convaincu, ne pas douter, n'est-ce pas, du choix que l'on avait fait. Parce que moi, lorsque j'étais commissaire stagiaire et j'étais dans les murs de la préfecture de police, partout à peu près, on voyait des grandes affiches et c'était marqué « La police, un métier d'homme ». Vous voyez, alors nous, les femmes, on voyait ça, on dit « Bon, bah d'accord, bah, tant pis, hein, on y va quand même ». Mais c'est vrai que, au départ, disons que rien n'était en fait tout à fait conçu pour l'accueil des femmes.
Ça a été dur ?
Oui et non. C'est-à-dire que il fallait, la façon de s'imposer, c'était aussi la façon d'être, nos convictions, l'approche que l'on a du métier, si vous voulez. Je suis une passionnée, en même temps, j'ai le sens des responsabilités, c'est-à-dire que je ne me serais jamais défaussée devant quelque chose. Je crois que mes collaborateurs l'ont toujours senti. Vous voyez, je crois qu'il faut instaurer des rapports de confiance et ensuite partager cet amour du métier, ce professionnalisme. Et une fois que ça c'est acquis, qu'ils vous connaissent, après que la confiance s'installe, je veux dire, on oublie la femme. Hein, après, ça devient être le chef de service, quoi. Voilà, tout simplement.
J'ai été accueilli ici, elle était assise dans ce fauteuil-là, et moi, je la regardais, c'était un peu... je la regardais, etc. Et puis, ça a duré à peu près 20 minutes, l'entretien. À l'époque, j'étais en DPJ, je suis reparti donc, dans mon service. Le chef était Patrick Hefner, qui avait été donc ton adjoint. Ouais. Et donc, je suis revenu, il m'a dit alors, l'entretien, j'avais peu d'expérience des enquêtes criminelles, donc j'avais dit ce que j'avais pu dire. Et j'ai donc aucune nouvelle. Et puis une heure après, il m'appelle, il me dit descends me voir. Et il me dit voilà, Martin Monteil m'a appelé, tu vas monter comme chef de section à Valcrinel. Voilà, donc Martin Monteil a été ma première chef. Donc Michel Faury, j'ai 50 ans et j'ai été nommé il y a quelques semaines donc comme chef de brigade criminelle.
D'accord, c'est vous qui aujourd'hui occupez le bureau de Maigret.
Absolument, c'est un service qui a quand même beaucoup beaucoup évolué, hein, égard à l'évolution de la délinquance, notamment sur un recentrage sur le terrorisme, enfin, sur la lutte contre le terrorisme, hein, puisque c'est un service aujourd'hui qui travaille pour plus de la moitié des effectifs dans ce domaine de compétences. Un service qui a aussi beaucoup évolué parce que les méthodes d'enquête ont évolué. Et en même temps, un service, j'observe, par rapport à ce que j'ai pu connaître dans les années 2000 lorsque j'ai été recruté donc, par Martin Monteil, un service qui garde un attachement fort aux traditions, à des règles de fonctionnement et une tradition d'excellence que je retrouve intacte pratiquement presque 20 ans après l'avoir quitté.
Alors vous allez bientôt le quitter, ce bureau, alors pas pour être appelé à d'autres fonctions, enfin pas tout de suite du moins, mais physiquement puisque vous allez partir du côté des Batignolles. Ça vous fait un petit quelque chose de partir, de quitter ce bureau ?
J'y suis depuis peu, mais c'est vrai qu'il faisait partie, enfin je pense, la brigade criminelle, ce bureau est un bureau mythique, comme le disait Martin Monteil, et c'est vrai que l'intégrer aujourd'hui, j'étais assez, d'ailleurs à mon installation, j'étais assez ému, et c'est vrai qu'être installé ici, c'était un peu l'aboutissement pour moi d'une carrière en police judiciaire, parce que être nommé chef de brigade criminelle, c'est pour moi le dernier poste ou le rêve de tout commissaire de police qui aime la police judiciaire. Et moi, j'essaie d'avoir cette même passion pour les enquêtes, pour la matière, mais aussi pour les policiers. Voilà, excusez-moi.
Ce soir, réunion de crise avec tous les chefs de groupe, procéduriers et deuxième de groupe. Je viens d'avoir les RG. Les journaux de demain titrent tous sur le tueur de l'Est parisien. Ça va être la psychose à Paris. Ça nous oblige à changer immédiatement de tactique. Hein, on diffuse le portrait robot tous azimuts, journaux, JT, messages d'alerte sur les panneaux lumineux de la ville. On recommence les rondes et les contrôles d'identité à l'aveugle, comme vous l'aviez déjà fait il y a 2 ans. Et je veux aussi qu'on surveille toutes les sorties de territoire. Je veux qu'on trouve SK1 et qu'on le ramène chez nous. Dernier point. On a 2500 ADN de délinquants sexuels qui sont stockés ça et là. Légalement, on ne peut pas s'appuyer dessus. Le juge d'instruction, Gilbert Thiel, chargé de l'affaire, et moi-même avons décidé de contourner la loi. Le juge vient de délivrer une mission d'experts, contraignant tous les labos à rechercher systématiquement SK1 dans leurs fichiers. Certains labos vont refuser. Vous exigez d'eux un refus par écrit en leur précisant qu'il sera versé au dossier. Hein, on en reparle à la prochaine victime. Ils céderont.
Le commissariat est
une
circulaire de recherche.
La fax. Non, on n'a pas le choix. C'est la PJ, nous on a le judiciaire.
Le mythique escalier, là, les 148 marches.
Voilà, c'est le mythique escalier des 148 marches. Et je crois que. On peut vraiment parler de mythique parce que, si vous voulez, c'est à la fois c'est l'odeur, c'est cette profondeur qu'a cet escalier. On est tout de suite dans la maison, on est tout de suite dans une ambiance. Donc je veux dire, c'est vraiment un escalier qui marque les esprits. Il est vraiment chargé d'histoire et puis c'est vrai aussi que c'est parce qu'il a vu gravir ces marches par de grands criminels et de piètres voyous, mais des milliers de délinquants ont monté ces marches.
Oui, c'est un style très particulier, hein. C'est un escalier noir qui craque, c'est du lino.
Oui, c'est ça, il est vétuste, il est dans son jus, il est usé par tous nos pas, quelquefois nos courses. Donc en fait, il est le reflet d'une vie.
Alors, vous nous avez dit que vous avez vu grimper des grands criminels par ces escaliers. Ouais. Je pense à une affaire en particulier, c'est celle de Guy Georges.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé au moment où lui a monté ces escaliers ?
Quand les inspecteurs de la 2e DPJ l'ont amené vers le 36, on l'attendait. On voulait avoir la première image de ce tueur en série que pendant plusieurs années, quasi presque une décennie, on a pourchassé, si vous voulez. Ce qui fait que ça a été une nécessité de voir à quoi il ressemble celui-là, même si on connaissait sa photo, on connaissait son parcours, on avait envie de le voir vraiment, voilà.
Alors je ne sais pas si vous avez vu le film qui est consacré à Guy Georges sur l'affaire SK1.
Oui.
Il y a la scène justement qui est représentée et on voit vraiment un nombre d'hommes incroyable dans ces escaliers qui font presque une, une haie d'honneur, mais c'est presque l'inverse.
C'est une haie de l'horreur. Moi, j'ai toujours dit, pas une haie d'honneur. Là, c'est nous, on regarde lui qui incarne l'horreur. Quand on voit cet homme, on ne peut absolument pas ne pas penser à toutes ces jeunes femmes qui ont été assassinées, égorgées, qui ont subi les pires sévices. Donc, attention, nous n'étions pas si nombreux. C'est pas tout le service, un certain nombre ont souhaité le voir. Ça s'est fait d'ailleurs dans un grand calme, une grande dignité. Je pense que c'était quelque chose d'assez naturel pour nous. Oh, je vais lui dire bonjour. Jean-Claude, alors. Non, mais...
Asseyez-vous. Mireille.
Bonjour, femme.
Le patron est là.
Dans son bureau.
Vous savez, M. Martineau, qu'ici, vous déposez sous serment.
Sous serment devant qui?
Devant le patron. Le commissaire divisionnaire est un magistrat.
Soit, je le jure.
Faites votre déposition.
Ça va, j'ai ce qu'il faut. Entendons serment préalablement prêté. Monsieur Martineau Maurice, né à Avranches.
Avranches.
Le 15 juin 1916.
Attention à la barre.
Avant de sortir du RER, j'arrive en Seine-et-Marne. J'ai rendez-vous avec un ancien braqueur, car si le 36 est une histoire de grand flic, c'est aussi une histoire de voyou. On va voir un petit peu son point de vue sur tout ça.
Voilà, je m'appelle René, j'ai 63 ans. Je suis aujourd'hui antiquaire, depuis une quinzaine d'années, vingtaine d'années. J'ai passé un long moment en prison, une vingtaine d'années, dans les QHS.
Quartier de haute sécurité.
Ouais, quartier de haute sécurité. J'ai fait 7 ans à Fresnes, Clairvaux, enfin j'ai fait toutes les prisons de France, quoi. Et de temps en temps, on vient me chercher à la maison, parce que on doit être nostalgique de moi. Donc, voilà.
Quand vous dites « on », c'est les policiers, parce que vous connaissez bien le 36 Quai des Orfèvres.
Non seulement je le connais bien, mais presque ils vont peut-être me donner une clé pour que je puisse rentrer quand je veux, et puis je vais leur donner une clé de chez moi, parce qu'à force de me casser ma porte, je commence à en avoir marre, j'ai pas... voilà quoi.
Votre spécialité, c'est quoi d'ailleurs?
Un peu tout, sauf tout ce qui est pas beau, quoi. L'attaque de vieux, tout ce qui est agression sur les gens, c'est pas mon truc, ça. C'est pas... Nous, c'était plus les cambriolages et puis les bracos, quoi. Voilà.
René, on va revenir sur la première fois où vous montez les marches, où vous montez ces 148 marches du 36 Quai des Orfèvres. C'est quand et pourquoi?
Bah vous me l'apprenez, je savais déjà que je ne savais pas qu'il y avait 148 marches, parce que je crois que les 148 marches, c'est la criminelle en haut, et moi, j'ai jamais été à la criminelle. Donc, le peu que j'ai marché, je m'en souviens un petit peu. Et c'est un peu lugubre, mais bon, voilà, quoi. Pour moi, un commissariat, ça reste un commissariat, que ce soit le 36, la criminelle ou les choses. Ça reste une maison de police, et dans une maison de police, on n'y est jamais bien, quoi. Vous savez, j'ai dormi quand j'étais jeune à la cité. Je dormais dans les cages de la cité. Vous allez comprendre que vous pouvez passer de partout après. J'ai passé une nuit à tuer les cafards, moi. On était 30 par terre dans une toile, dormir par terre, sale, avec la piste, l'urine. Quand vous voyez les geôles de la cité, aujourd'hui peut-être plus comme ça, mais à mon époque, c'était... Même votre chien, vous ne le laissez pas. Moi, mon chien, je ne l'aurais jamais laissé 24 heures là-dedans. Et nous, on passait 48 heures tous les week-ends, à l'époque de Poniatowski. Ouais.
Vous y êtes allé plus d'une fois quand même, dans ce 36.
J'ai dû y aller une vingtaine de fois, moi. Ouais.
Le fait de savoir que ça déménage, le 36 Quai des Orfèvres, ça vous fait quoi, vous?
Ah bah, je suis pas chagriné du tout, parce qu'ils seront un peu moins bien. Parce que là-bas, c'est leur maison, ils sont bien. C'est chez eux, le 36. C'est mythique par rapport à qui? À eux, pas aux voyous. Les voyous, ils n'ont jamais trouvé ça mythique. Quoi, s'il disparaît un musée, oui, je vais être triste. Mais le 36, il peut même être englouti, ça me dérange pas. Hein.
Ouais, vous n'avez pas hâte de mettre les pieds dans le nouveau non plus?
Pas du tout, puis je vais être surpris parce que je vais prendre l'ascenseur, parce que au 36, il n'y a pas l'ascenseur. Que dans l'autre, il doit y avoir un bon ascenseur, et puis bon, et puis je pense qu'il y aura des toilettes propres, des gardes à vue propres, filmées, où il n'y aura pas de débordement, et puis bon, j'espère ne pas y aller. La dernière fois que j'y suis allé, il n'y a pas longtemps, il y a un an et demi, deux ans, j'ai fait cinq jours de garde à vue. 5 jours de la garde-à-vue, je pensais que c'était que pour les terroristes ou pour les choses. Moi, j'ai eu juste un différend commercial. Vous savez ce que c'est un différend commercial? C'est qu'on n'était pas d'accord sur un achat, sur une vente. Ce qui vaut, allez, 2 heures d'audition chez n'importe quel commissariat. Moi, je me suis retrouvé 5 jours en garde-à-vue. Et d'ailleurs, dans des conditions, mais c'est même pas des conditions. Vous pouvez pas aller pisser, vous pouvez pas aller aux toilettes, aller chier, vulgairement, comme on dit. Il n'y a pas de papier, c'est dégueulasse, ça pue. Comment vous pouvez être auditionné sainement après? C'est impossible. C'est pas 5 jours méchants, hein. Il n'y a pas de coups, il n'y a pas de trucs, il n'y a rien. Psychologiquement, c'est dégradant. La fin du 36, je pense, eh ben, peut-être ça va me soulager, ça sera la fin de moi. Voilà, quelque part.
C'est-à-dire que vous partez en même temps que le 36.
Voilà. Voilà.
Retour au 36 dans une pièce que René connaît bien. C'est le parloir, minuscule, oppressant même, on est sous un escalier. On y entre avec Anne-Sophie Laguins, elle est avocate au barreau de Paris.
Alors on est dans un parloir qui est réservé normalement aux avocats et à leurs clients. C'est-à-dire qu'on intervient une fois toutes les 24 heures pour avoir un entretien de 30 minutes. Donc c'est un petit peu la petite bulle sur 24 heures qu'on peut avoir seul à seul avec le client pour pouvoir un petit peu faire le point sur le dossier en cours. Bah, c'est très confiné, donc c'est un peu particulier. On sait qu'on est au milieu du 36, donc c'est assez, effectivement assez particulier.
C'est-à-dire qu'en plus, ça résonne, il y a des spots un peu spéciaux. C'est très bas de plafond en plus. Hein. Voilà, comme je disais, on ne le voit pas, mais c'est très très bas.
Bah, et c'est peut-être finalement le seul endroit similaire qu'on pourrait trouver à tout l'imaginaire qu'on pourrait avoir des commissariats du 36 avec des lumières un peu plein feu sur les gens. Et finalement, c'est dans l'endroit qui est réservé à l'avocat et aux clients, paradoxalement.
On dirait presque une petite cellule.
Oui, c'est un peu comme une petite cellule, effectivement. Ouais.
Vous vous souvenez de la première fois que vous êtes rentré au 36 quai des Orfèvres?
C'était pour une garde à vue, mais alors je pourrais plus vous dire pourquoi, parce que je crois que c'est une garde à vue qui n'avait pas duré très longtemps, paradoxalement, par rapport au 36. Avec ce côté assez facile et assez fascinant qu'on est finalement dans l'enceinte du palais de justice, donc on peut très bien sortir d'audience, remonter, et en même temps, c'est pas non plus la même enceinte, c'est un univers différent, c'est un personnel différent, et une ambiance très différente. C'est pas obligatoire, mais en général, on est présent sur toutes les auditions pour assister la personne qui est gardée à vue, pour vérifier que les questions sont bien posées, que c'est bien retranscrit aussi, pour poser éventuellement des questions et aiguiller éventuellement les interrogatoires. Mais on a quand même un peu de marge de manœuvre à ce stade-là. Donc il a pu m'arriver sur une garde à vue de rester 96 heures quasiment non-stop ici à faire des allers-retours de jour, de nuit. Vous ne savez plus quelle heure il est, quel jour on est. Donc ça crée une ambiance finalement entre les policiers, l'avocat et le garde à vue qui est très très particulière parce qu'on vit ensemble pendant 96 heures quasiment.
Vous, ça vous fait un petit quelque chose quand même de vous dire que bah, voilà, c'est peut-être les dernières fois que vous montez l'escalier, que vous êtes dans cette pièce-là?
Oui, je pense qu'on a quelques regrets, mais comme on a plus généralement, les avocats vous diront pour beaucoup qu'on a pas mal de regrets à quitter d'une façon générale l'île de la Cité pour aller aux Batignolles. Hein. On n'a rien contre les Batignolles, simplement c'est un endroit qui est historique, qui est beau. Quand vous êtes sur le plateau correctionnel, c'est pareil, vous avez toutes les chambres qui sont regroupées, on se connaît un peu tous sur le petit milieu des pénalistes, donc quitter cet endroit-là qui est plein de solennité aussi, ça nous attriste un petit peu, oui.
Oui, parce qu'il y a aussi le palais qui déménage, hein. on l'a pas dit, mais c'est vrai que le palais de justice déménage avec le 36. Ouais.
Donc toute la vie finalement judiciaire va se faire à 80% maintenant au Batignolles.
Je suis innocent, j'ai pas tué ces femmes, je vous le jure. Les aveux au 36, ils m'ont tapé dessus, j'avais le crâne ouvert, et l'ADN, c'est pas le mien.
Le 36 et le palais de justice vont donc ouvrir un nouveau chapitre de leur histoire. Un écrivain a déjà imaginé comment ça allait se passer. C'est Hervé Jourdain, un ancien du 36. Il était à la brigade criminelle.
Alors moi, j'ai quitté le 36 quai des Orfèvres il y a bientôt 3 ans. Je suis policier, j'ai 44 ans.
Aujourd'hui, vous êtes écrivain à temps plein ?
Non, je suis toujours policier en activité. Maintenant, je travaille au ministère de l'Intérieur dans le 8e arrondissement. Et je continue d'exercer ma passion, qu'est l'écriture, sur mon temps libre.
Vous avez écrit de nombreux romans qui se passent au 36 quai des Orfèvres. Et votre dernier roman, sorti il y a quelques mois, se passe, lui, déjà au Batignolles, dans le 17e arrondissement. Pourquoi ?
Mais en fait, j'ai voulu anticiper ce déménagement. Je me doutais bien qu'il y aurait des freins à ce déménagement et qu'il n'était pas complètement acquis. Et donc, pour nourrir cette histoire, pour nourrir ce nouveau site que je ne connaissais pas, que je n'avais vu que sur plan, j'ai consulté le site de l'architecte qui a construit le bâtiment. Et j'ai également pris attache avec un commissaire de police qui était chargé du suivi de l'agencement des locaux intérieurs pour dire le moins de bêtises possible et pour être le plus fidèle à l'aspect intérieur et extérieur du nouveau bâtiment.
Vous vouliez être le premier à camper une histoire dans ce nouveau bâtiment ?
Pour moi, c'était une nécessité parce que je voulais honorer en fait la mémoire du 36 quai des Orfèvres au travers du déménagement. C'est-à-dire, je voulais faire vivre les enquêteurs fâchés, perturbés par ce déménagement, par la prise en compte de nouveaux locaux qui ne correspondent pas du tout à leurs anciens locaux. Prenons par exemple le local de garde à vue, la salle d'interrogatoire. Ici, une audition d'un mis en cause se passerait dans le bureau d'un enquêteur, donc à domicile si on peut dire, tandis qu'au Bastion, l'interrogatoire d'un mis en cause va se passer dans une salle neutre, dans une salle d'interrogatoire, telle qu'on pourrait les voir dans un film américain, sans que l'enquêteur ait ses propres repères, son cendrier à gauche, son clavier face à lui, sa boîte à stylo sur sa droite. Voilà, il y a des gestes, il y a une gestuelle, il y a des éléments qu'il va devoir se réapproprier dans des nouveaux locaux, ce qui va probablement le perturber pendant quelques semaines, voire quelques mois. Mes trois premiers romans policiers se situaient au 36 quai des Orfèvres. Le quatrième se situe au 36 rue du Bastion. Si j'en écris d'autres, ils se situeront de nouveau au 36 rue du Bastion. Mes enquêteurs vont s'approprier au fil de l'eau les locaux. D'ailleurs, ils ont déjà trouvé une brasserie qui s'appelle le Gyrophare pour leur décrochage entre midi et deux, pour leur déjeuner ou pour leur décrochage le soir après le travail et pour aller débriefer ensemble. Alors le Gyrophare, je ne sais pas si une brasserie portera ce nom dans ce quartier-ci, mais en tout cas, je ne doute pas qu'il y aura des brasseries qui accueilleront les 1700 policiers qui travaillent au 36 rue du Bastion.
Le déménagement du 36 quai des Orfèvres a déjà commencé il y a quelques semaines. Pour autant, il est toujours contesté. Et on va voir que d'ailleurs, il y a des pétitions qui sont signées et qui circulent dans plusieurs services pour tenter de repousser le déménagement.
Donc, je m'appelle Xavier Espinas, je suis commissaire divisionnaire et je suis le chef du service régional d'identité judiciaire de Paris. On est 13 à l'étroit et ce sont des bâtiments qui n'ont évidemment pas été faits pour traiter de police scientifique moderne, avec des outils extrêmement performants et ultra modernes. On est dans des locaux qui ne sont plus adaptés à la mission qui est la nôtre.
Vous allez nous montrer ?
Un petit peu. On va faire un tour.
Même mode opératoire, même type de fille. Même arrondissement.
Il y a un cheveu sur la manche. ADN possible.
Commission rogatoire express pour l'ADN. Je vais le résultat dans la semaine.
Alors, ce que je vous demande, c'est de rester dans cette partie.
À l'extérieur, on nous a dit.
Voilà, on n'entrait pas.
Voilà, alors je vous demande de tenir la porte.
Voilà, vous pouvez entrer peut-être quand même jusque-là pour voir. Et puis, je vous laisse décrire vous-même, tiens, après tout.
Ben, donc, on est dans un labo. C'est plutôt petit, mais c'est vraiment tout petit. On dirait un labo de chimie de lycée, véritablement. Est-ce que dans le nouveau 36,
ah oui, c'est beaucoup plus grand. Oui, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus spacieux, beaucoup plus aéré, avec ergonomique. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Si tout marche bien, ça sera merveilleux.
Hein. Il faudra se changer aussi au début de la pièce.
Mais on aura, à la différence d'ici, où on a juste un retrait comme ça, là-bas, il y a un sas. Donc, alors, en fait, pour avoir visité les nouveaux locaux qui vont être les nôtres, je dois dire que de ce point de vue-là, on est vraiment gâtés parce que les locaux sont vraiment très beaux, très fonctionnels. Si tout marche comme c'est prévu, parce que bon, on se doute bien que dans un immeuble neuf, il peut y avoir des loupés. Si tout marche comme c'est prévu, on sera dans des conditions de travail. Je dis bien des conditions de travail, exclusivement de ça. Ce sera parfait. En tout cas, bien mieux qu'ici.
Ici, c'est pas tout confort, en tout cas.
Non, c'est pas tout confort et c'est touilleux.
Là, on a donc un panneau où on peut afficher un petit peu tout ce qu'on veut. On voit un article de presse marqué « La PJ déménage dans la douleur ». C'est-à-dire « déménage dans la douleur ». Pourquoi ?
Oui, alors ces articles sont affichés un peu partout dans le service, ce qui tente à démontrer que les personnels, en tout cas les personnels de mon service, ne sont pas du tout favorables, non pas tant au déménagement en lui-même d'ailleurs, qu'aux conditions dans lesquelles le déménagement est susceptible de se faire. Beaucoup considèrent que c'est fait de façon trop rapide, un petit peu précipitée, dans des conditions qui ne sont pas adaptées, pour des locaux qui certes, à l'intérieur, sont absolument superbes et très fonctionnels, mais dans un environnement qui est aujourd'hui pas ce qu'il devrait être. L'accès même aux nouveaux locaux est quasiment impossible dans des conditions normales. Mes collaborateurs qui sont allés sur place et qui ont vu comment ça se passait, les gens estiment qu'il n'est pas digne de bouger dans ces conditions. De ce fait, l'ambiance dans le service est extrêmement tendue, pas un petit peu, extrêmement tendue, avec des personnels qui renaclent vraiment à l'idée non pas de partir, mais de partir aussi vite et dans ces conditions-là. C'est pas prêt. À titre personnel, je suis pas loin de penser comme eux.
Rejoignez Cristal 3, gare de Lyon. Cristal 7 route pour vous émettre son voltage.
Identification effectuée. Samy Moya, né le 24 juin 1960, inconnu à FRP.
Cristal 2, bien reçu, contrôle d'identité terminé.
Merci. Cristal 8, prenez Charles, bonne journée.
Je vous laisse d'abord vous présenter, si vous le souhaitez.
Yann, chef de groupe, à la brigade depuis 13 ans.
Brigade
des stupes.
Expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous ressentez quand on vous parle du déménagement ?
C'était une nécessité d'avoir de nouveaux locaux plus adaptés à l'évolution, même de la police, avec le matériel qu'on entrepose, qui prend de plus en plus de place. Même, on commence à avoir des salles juste pour les auditions, il faut des salles pour les scellés, enfin bon... Tout ça fait qu'effectivement les locaux actuellement sont plus adaptés. Bon, après il y a eu un choix géographique et puis là on a choisi un site où au niveau des moyens de transport, rien n'a été prévu. Moi c'est une des raisons pour lesquelles je quitte la PJ pour aller en banlieue. Comme je vous disais, les transports en commun ne sont pas prévus actuellement. Il y a une ligne qui est déjà saturée, donc déplacer encore 2000 à 3000 personnes supplémentaires sur la même ligne, ça va être... encore une surcharge supplémentaire. J'aime beaucoup mon travail, mais on a aussi une disponibilité. C'est-à-dire qu'au bout d'une certaine distance, on ne peut plus répondre à des exigences de réactivité. On est sollicité, ça peut être en pleine nuit, des choses comme ça. Et donc si je ne peux pas, moi, assurer cette réactivité, je l'exige des mecs que je recrute dans mon groupe. Si je suis le premier à ne pas pouvoir accepter ces conditions, faut en tirer conclusion. Donc, dans ces cas-là, on s'en va, puis on laisse la place à d'autres. Faut pas regretter, quoi.
Ouais, vous n'êtes pas du tout amer, finalement, de vous dire, parce que c'est quand même à cause d'un déménagement, donc c'est pas un changement de carrière, j'allais dire, voulu, il est presque subi, plutôt.
Oui, c'est ça, oui, non, il est subi. Il y a des liens avec des tas de collègues, donc c'est ça qui va être le plus dur, quoi. Je suis pas attaché au meuble. Non, ce qui me peine, on va dire, ouais, c'est de quitter... des gens avec qui j'aime travailler, et avec qui je travaille depuis des années, et qui ça passe bien, même avec les autres groupes, cet échange. Donc, c'est plus le côté humain qui et les gens qu'on va quitter.
Il y a des menaces avérées de récidive, donc c'est la priorité absolue. Le taulier nous demande, en accord avec le Premier ministre et le préfet de police, que tous les policiers de la brigade criminelle soient mis prioritairement au service de la section antiterroriste.
Les répartitions concernant la crime sont sous ce tableau.
Pour les groupes concernés, SK1, on fait quoi ?
Le jour, on est sur l'attentat, et la nuit, tant qu'on peut, on continue les tournées SK1. Je sais. Des questions ?
Merci, messieurs. Merci.
Je m'appelle Éric Cronier. Je suis chef de pôle à l'état-major de la police judiciaire, et plus particulièrement au sein du service d'information et d'assistance. J'avais fait l'école d'enquêteur à Toulouse en 1979 et j'ai été affecté à la PPPJ le 17 mars 1980. Donc ça a fait 37 ans et l'année dernière, j'ai eu 36 ans, 2-36.
Qu'est-ce qui vous inspire ce 36 quai des Orfèvres ? C'est quoi que vous retenez quand vous parlez de ce lieu, de ces gens ?
Ah, c'est... énormément de souvenirs, évidemment. Beaucoup d'affaires, évidemment, avec des très belles affaires. Et puis, il y a beaucoup de collègues que j'ai rencontrés, tous les grades. Et on a gardé, avec beaucoup d'entre eux et d'entre elles, des vrais liens de professionnels, évidemment, et, mais qui sont devenus des liens amicaux.
C'est un peu plus que des collègues.
Ah oui, c'est, je te dis toujours, c'est une famille. Le 36 Quai des Orfèvres, la PPPJ, oui, c'est une famille. C'est une vraie famille. Les affaires, les épreuves que l'on rencontre nous font être très solidaires, à travailler main dans la main et à des horaires souvent très variables. La nuit, le jour, les jours fériés, les week-ends, sur les vacances. Et ce qui fait qu'on a vraiment une grande, moi j'appelle ça une fraternité, oui, tout à fait, oui.
Vous y êtes fait à l'idée de la retraite comme ça ou pas encore, ou ça paraît lointain dans votre tête?
Non, j'y pense, je suis obligé d'y penser un petit peu. Pourquoi? Parce que je vais avoir 60 ans cette année. Puis en fait, vous savez, quand vous avez passé plus de 30 ans dans une direction et dans certains services, les collègues deviennent des amis. On ne coupe pas le cordon comme ça, quoi. Je veux dire, il y a des vrais liens qui se sont tissés.
Est-ce que vous gardez une image particulière où vous vous dites, voilà, l'esprit 36, l'esprit de famille, c'est ça?
D'un côté professionnel, c'est lorsque on a eu sur certaines affaires, quand j'étais à la CRIM, et là notamment à la fin, les dernières années sur les attentats, où tout le monde est capable de réagir et où qu'il soit, d'arrêter ce qu'il est en train de faire pour revenir, pour justement faire avancer l'enquête. Et ça j'ai toujours été très surpris, et c'est une force terrible, ça. Et c'est ça qui est important, et c'est même très rassurant, parce que c'est pour le citoyen, pour toutes ces victimes, de savoir que quelque part, il y a une vraie équipe derrière pour les investigations, et avec une vraie complicité. Oui.
Précisons que le 36 sera occupé encore par quelques hommes, ceux de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention qui va rester au cœur de la capitale pour éventuellement se déployer au plus vite en cas d'attentat. Les hommes en noir sont les gardiens du temple, confie Robert Broussard, que nous avons rencontré pour ce reportage. Il a dirigé l'anti-gang pendant de nombreuses années. C'était le 36 sur son 31, l'APJ fait ses cartons, un reportage de Maxime Fayol avec à ses côtés Éric Damaggio pour la prise de son. La réalisation est signée Anne Lioro avec l'assistance de Stéphane Combe et Zora Ben Smaili. Mixage, Manuel Couturier. À dimanche prochain.